France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'Afghanistan.
Tant qu'il y aura un seul Afghan, il y aura un Afghanistan. Occuper ce pays, ô ennemi, est impossible. Ça fait une éternité que les envahisseurs sont humiliés ici.
L'Afghanistan peut vite devenir un piège, une impasse pour les puissances étrangères qui y engagent des troupes. La France qui veut hâter son départ commence à en savoir quelque chose, qui, ce printemps, cherche comment évacuer d'ici l'hiver ses 2400 soldats combattants, ses 900 véhicules, ses 1400 conteneurs de matériel. Apparemment, le plus simple serait de partir de la province de Kapisa et d'aller en direction de l'Est, vers le Pakistan proche. Mais là est justement l'épicentre de tous les dangers dans cette zone. Écheveaux indémêlables s'agrègent turbulents pachtounes du lieu, talibans et djihadistes internationaux, les uns et les autres tirant parti de toutes les opportunités locales. La zone est bien difficile à administrer en temps de paix, impossible à pacifier en temps de guerre. Depuis qu'il a été tracé sur le papier, en 1893, la ligne Mortimer-Durand, ligne considérée comme virtuelle par les populations pachtounes qui vivent de part et d'autre, mais s'en trouvent séparées. C'est autour de cet axe, AF-PAK, Afghanistan-Pakistan aujourd'hui, Afghanistan-Empire des Indes hier, que ne cesse de rebondir le grand jeu entre puissances dont l'Afghanistan est le théâtre, le carrefour, la victime, le produit aussi. Georges Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai dit que vous veniez des Côtes d'Armor dans notre présentation avec Claire Servajan, mais vous avez vécu un tiers de siècle à peu près dans la zone comme anthropologue, comme diplomate.
D'abord comme anthropologue. J'ai pendant de nombreuses années fait une recherche sur une petite population qui est à cheval sur la frontière AF-PAK justement, qui s'appelle les Kalash, bon, pendant une quinzaine d'années, dont 50 séjours. Et je connaissais un peu la région, donc le ministère des Affaires étrangères m'avait un peu remarqué après l'arrivée des Soviétiques et j'ai occupé plusieurs postes diplomatiques, en effet, à Peshawar, à Tashkent en Ouzbékistan et à Islamabad ensuite.
Alors c'était l'époque où la France jouait surtout dans la région, notamment en Afghanistan, la carte de l'archéologie, de l'enseignement, des relations culturelles. Et si vous étiez géologue, vous diriez que cette zone...
Si j'étais géologue, je dirais que l'Afghanistan, puisque les Anglais ont employé ce mot du grand jeu, le Great Game, l'Afghanistan est au centre de plaques tectoniques, au propre comme au figuré. C'est quoi une plaque tectonique ? Eh bien, c'est la question de la dérive des continents. Quand deux ou trois continents sur le magma du globe terrestre se dirigent les uns vers les autres, il y a au centre une hypercompression de la croûte terrestre qui crée des soulèvements de montagnes, de volcans ou autres, de soulèvements. Ici, nous avons eu plutôt des soulèvements de population par les hypercompressions.
Et c'est ça la ligne AF-PAK. Mais à l'ouest de cette ligne, il y a l'ensemble de l'Afghanistan avec les chaînes de l'Hindou Kush que vous traduiriez
par la montagne tueur d'hindous.
L'Indien, qui en sert de plateau désertique. À l'ouest et au nord, une steppe plate, aride, qui se dégrade au sud, en pleine de pierrailles, jaune, mais irrigable. Alors cette région, elle était ainsi décrite par Majrou, poète, ancien doyen de la faculté de philosophie de l'université de Kaboul, qui a été assassiné en exil à Peshawar et que vous avez bien connu.
Cette chanson s'appelle « Obacha » et Mawash fait le tour de toutes les régions de l'Afghanistan. Elle chante soit dans leur langue, mais surtout sur les rythmes de chaque région. En fait, l'unité de l'Afghanistan, c'est cette diversité de l'Afghanistan qui faisait sa richesse et que l'on retrouve dans cette chanson. Elle parle des Hazaras, de Herat, de Mazar, de Badakhshan, de Paktia, de Nangara, des Pashtuns, des Tadjiks. Et pour nous, l'Afghanistan, c'était ça.
On va surtout parler des Pashtuns ici, mais en effet, l'Afghanistan est divers. Les Pashtuns, c'est moins de la moitié de la population.
Oui, c'est un petit peu en dessous de la moitié. On pense maintenant à 42%. Il n'y a pas vraiment eu de recensement depuis longtemps. Mais c'est ça toute la beauté aussi et la complexité de l'Afghanistan. C'est ce patchwork d'ethnies, de gens qui se sont en fait associés avec les Pashtuns au long de l'histoire pour éviter de tomber sous la tutelle et l'autorité justement des grands empires voisins.
C'est ainsi que s'est constitué au milieu du XVIIIe siècle le royaume d'Afghanistan. Alors au milieu du XVIIIe siècle, vous êtes géographe aussi, vous m'avez apporté une carte que les auditeurs ne peuvent observer, mais cette carte qui a été fabriquée par le géographe du duc d'Orléans montre à la place de l'Afghanistan actuel un trou noir.
Oui, cette carte-là qui a été faite par Jean-Baptiste Bourguignon en 1751, cette carte-là ignore que l'Afghanistan a été officiellement créé 4 ans auparavant, en 1747. Et selon la terminologie de l'époque, c'est une carte qui indique la Tartarie, c'est-à-dire l'Asie centrale d'aujourd'hui, la Perse, c'est-à-dire l'Iran, et bien sûr l'Inde. Et dans ce centre, cette espèce de trou noir d'un Afghanistan qui va émerger, qui a déjà émergé 4 ans auparavant.
Zone floue sans nom, où habitent juxtaposées des tribus pashtounes sans chef unique et au confluent, tectonique des plaques toujours, de 3 grands empires.
Voilà, les 3 grands empires, ce début du XVIIIe siècle, sont encore l'empire qu'on appelle aujourd'hui Asie centrale, qui est l'empire des Chabanides. Vous avez à l'ouest l'empire qui est l'Iran aujourd'hui, qui est l'empire des Safavides. Et vous avez à l'est la péninsule indienne qui a déjà été conquise par l'Asie centrale, par Babur, et qui a créé la dynastie des Grands Moghols. Ces 3 empires, les empires n'ont pas de frontières, par définition, les frontières, c'est les frontières des conquêtes ou des échecs. Ces 3 empires convergent les uns vers les autres, et l'espace vital des Pashtuns est réduit à la portion tout à fait congrue.
Alors ils lancent des offensives, néanmoins, par exemple, vers Delhi. Où ils rapportent
les Pashtuns ont besoin d'un espace vital, font leur premier soulèvement se fait à Herat, on n'a pas la carte, mais imaginez à la frontière de l'Iran, en 1727. Et ensuite, en 1736, la mise à sac de la ville de Delhi, dont d'ailleurs le roi de l'époque, enfin, qui va s'auto-proclamer roi, Ahmad Shah Abdali Durrani, va rapporter le plus gros diamant du monde, peut-être, qu'on appelle Kohinoor, la montagne de lumière.
Son successeur, je vous rappelle donc que le royaume date de 1747, que sa capitale est d'abord à Kandahar, puis à Kaboul. Son successeur en 1809 à Kaboul reçoit, paré donc de tous ses ornements, de ses bijoux rayonnants, un envoyé anglais, parce qu'à partir du début du 19e siècle, voilà que dans le grand jeu s'insèrent les Anglais. C'est d'ailleurs de cette époque que date la création de cette armée auxiliaire des Britanniques redoutables, les Gourkhas. Et l'envoyé anglais, pas vraiment impressionné par les bijoux, parce qu'il regarde quand même l'état réel des forces et observe la misère de beaucoup d'Afghans, dit au roi, « Eh bien, maintenant, il y a les Britanniques, mais méfiez-vous, Majesté, il y a aussi les Russes. » Voici que maintenant, on passe au grand jeu avec 2 empires coloniaux.
Voilà. Les empires médiévaux s'effondrent sous la puissance des empires coloniaux. Donc nous avons l'Empire russe qui se développe jusqu'aux confins de ce qu'on appelle l'Afghanistan déjà, au nord de l'Afghanistan, puisqu'en 1865, les Russes sont à Tachkent. En 1862 ou 63, ils sont à Boukhara, ils sont à Samarkand, c'est-à-dire c'est le même pays que le nord de l'Afghanistan qui est simplement coupé par cette rivière qu'on appelle la Moudaria, que les Grecs appelaient l'Amoudaria et qu'on appelle aujourd'hui que les Grecs appelaient l'Oxus. Voilà. Alors, et de l'autre côté, bien sûr, les Anglais progressent aussi et chacun veut coloniser l'Afghanistan pour retenir la progression coloniale de l'autre.
Et alors, les Anglais, on entendait l'hymne des Bourkas, font fort de contrôler les Russes et de mettre sous leur orbite les Afghans. Pas de chance, 1842, dans un défilé, 16 000 soldats, femmes, enfants.
Oui, il y a une analogie avec les risques d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que, au fond, les Britanniques avaient déposé le roi en 1839, le roi Dost Mohammad l'avait remplacé par leur roi de cœur à eux, qui s'appelait Shah Shuja. Et puisque c'est les Britanniques qui avaient installé Shah Shuja au pouvoir, ils étaient persuadés d'avoir la parfaite protection du roi et de l'Afghanistan. Et donc les Britanniques s'installent dans la ville de Kaboul, qui est vraiment une conquête coloniale dans leur esprit. Donc ils arrivent avec les familles, avec les dames, les enfants, développent une culture à l'occidentale avec des théâtres, des golfs, etc. Tout se passe très bien, 1838, 39, 40. Et commence en 39, 40, 41. Des attentats, des assassinats. La population britannique est sous pression et décide finalement de quitter Kaboul. À l'époque, il n'y a pas d'avion C-130 pour faire l'évacuation. Donc les 4000 civils, entourés de 12000 soldats de monsieur du général Elphinstone, décident de rejoindre Peshawar, qui à l'époque n'est pas au Pakistan, mais se trouve dans l'Empire des Indes, contrôlé par les Britanniques, et fait cette colonne incroyable qui est massacré dans les gorges entre Serobi et Jalalabad. Et les Pashtuns, très en colère, n'ont laissé qu'un seul survivant pour témoigner.
Alors s'en suivent trois guerres dites anglo-afghanes, dont on ne va pas faire le récit souvent tragique, et la création, 1893, de la fameuse ligne Mortimer-Durand.
C'est-à-dire que les Britanniques, à défaut d'avoir pu coloniser l'Afghanistan, décide de le contrôler, au moins. Et comme les zones pachtounes sont des zones extrêmement turbulentes, il négocie avec le roi de l'époque, le roi Abdulrahman, il négocie une ligne de démarcation. À l'ouest de cette ligne, le roi afghan est responsable de la sécurité des pachtounes, et à l'est, les Britanniques le sont. Et en contrepartie d'une aide financière importante, les Britanniques proposent de gérer les affaires étrangères de l'Afghanistan de manière à contenir une fois encore les Russes.
Ne pas imaginer que cette ligne est une vraie frontière, c'est une zone tampon où les Britanniques d'ailleurs vont faire gérer les affaires par des agences tribales qui vont assurer les relations avec les fameuses Jirgas, les assemblées de barbe blanche des Pashtuns. Le gouvernement du roi, donc peu à peu, essaye de mettre en place cette structure, mais il va se retrouver face à un autre interlocuteur à partir de 1947, puisque le Pakistan va prendre la place de l'Empire des Indes. Et la ligne Mortimer-Durand demeure, c'est un legs empoisonné des Britanniques aux Pakistanais et aux Afghans.
C'est en effet un héritage impossible, parce que cette ligne Durand, si on revient à l'empire colonial britannique, c'est un empire, donc il n'a pas de frontières non plus. Et les Britanniques ne conçoivent pas du tout la ligne Durand, les textes le montrent tout à fait clairement, ne considèrent que la ligne Durand n'a rien, je cite, de la rigidité d'une frontière internationale. Donc c'est conçu, c'est perçu par les Afghans comme une ligne de démarcation, de sécurité, si je puis dire. En 1947, lorsque le Pakistan est créé, le Pakistan a déjà lui aussi du mal à trouver son espace puisqu'il est en difficulté avec l'Inde sur la question du Cachemire. Il a besoin d'avoir une frontière très sécurisée à l'ouest, et très clair, pour lui, la ligne Durand devient une frontière internationale au nom de l'héritage des traités, ce que les Afghans ne vont jamais reconnaître.
Le gouvernement du roi lui parle de Pashtunistan, et il tente de son côté d'unifier par ailleurs l'Afghanistan, de centraliser l'administration, de briser les particularismes. C'est le sens de l'organisation des fameux Buzkashi qui fascinent tous les voyageurs de l'époque, Kessel en particulier, dans les années 1950.
Les cavaliers de Kessel, eux, à Kaboul, célèbrent à leur manière l'anniversaire non plus de leur formation, mais de leur roi. Descendus des hauts plateaux de l'Afghanistan pour la fête, ils jouent le bouche-cachi, leur sport préféré. À cheval, avec pour ballon une peau de bouc gonflée de sable qui pèse quelques 50 kilos, ils sont tous, contrairement à ce que l'on pourrait penser, des joueurs professionnels, véritables centaures, à qui la victoire rapporte récompense, honneur et renommée dans tout le pays. D'une tribune spécialement édifiée au bord du champ de quelques hectares qui sert de terrain, et dont la tradition remonte à travers l'histoire des cavaliers afghans jusqu'à Gengis Khan.
Par ordre de Sa Majesté le Roi, celui des Chabandals, qui portera le veau décapité autour du drapeau bleu et reviendra le déposer ici, dans le cercle de justice, recevra le fanion du roi et sera proclamé maître Chabandal de tout l'Afghanistan.
Les voyageurs sont fascinés parce qu'ils imaginent que c'est une tradition immémoriale. Le bouche-cachi vient d'Asie centrale et n'est pas si important peut-être pour les Pachtounes. Quant aux élites, elles sont contentes qu'il y ait des voyageurs, parce que le roi Zahir, élevé à Janson de Sailly, les lecteurs de français, ceux qui fréquentent le lycée français de Kaboul, où notre ambassade témoigne de la possibilité d'une européanisation du pays. Et cependant, il y a ce que vous appelez le code d'honneur pachtoun, Georges Lefebvre. Parce que c'est pas seulement une langue, le pachtoun, c'est
pas
une manière d'être.
Une langue. Oui, c'est vrai que l'effort de modernisation de l'Afghanistan, qui date du début du XXe siècle, avec le roi Amanullah, qui se continue avec Nadir Shah, avec Zahir Shah, bien entendu. Et c'est très bien cet exemple du bouche-cachi qui est une volonté de créer une nation autour de valeurs qui ne sont pas seulement pachtounes.
Mais, extrait des cavaliers de Kessel.
Voilà. Mais les pachtounes, oui, ont ce portoun khwali, qui est un code d'honneur et de comportement qui ne peut pas être brisé comme cela. C'est d'ailleurs une des difficultés quand on imagine qu'on va faire de la bonne gouvernance, qu'on va donner des conseils de démocratie, de liberté pour apaiser les insurrections. Ce portoun khwali ne peut pas se briser comme cela.
Et mais dans le portoun khwali, dans ce
alors
code.
Vous avez quand même deux éléments qui sont très forts et qu'il faut nommer. Vous avez l'hospitalité, et ce n'est pas un vain mot. Lorsque vous êtes l'invité d'un pachtoun dans le village le plus reculé des montagnes, ou si vous êtes un voyageur en difficulté et qu'il vous héberge chez lui, vous êtes le mermon et vous êtes traité mieux qu'un roi, vous êtes traité comme un dieu. Mais l'autre pilier du portoun khwali, c'est aussi la vengeance.
Mais enfin, il y a peut-être le droit d'asile de temps en temps pour tempérer les sévérités.
Ah ben le droit
de
d'asile,
la vengeance.
C'est bien sûr, c'est l'hospitalité, un droit d'asile extraordinaire. Mais autant les Pachtounes seront toujours très accueillants envers des voyageurs, autant une armée avec un uniforme qui n'est pas la sienne ne reçoit pas les bénéfices de l'hospitalité.
Enfin, une recommandation quand même pour le voyageur, si vous êtes invité dans la cour du propriétaire, ne cherchez pas à voir où est le logis des femmes. Témoignage de Joseph Kessel, 1967.
Nous avons tourné un film ici. Dans ce film, nous savions très bien qu'il était difficile d'avoir des femmes, mais j'espérais en avoir une pour un mariage, pour égayer le film, fût-ce une seconde. Et j'ai demandé au roi s'il pouvait obtenir qu'une femme parût dans notre film. Il m'a répondu: là, je n'ai aucune autorité, cela dépend du mari s'il est marié, du père s'il n'est pas marié, du frère aîné si le père est mort. Essayez de vous arranger vous-même. On a essayé, impossible. Or, nous avons fait la connaissance, dans la province éloignée de Maïmana, d'un gouverneur qui m'a dit: je vais essayer de mon mieux. Eh bien, il avait droit de grâce pour les prisonniers. Il y avait une prisonnière qui avait 10 ans de détention pour avoir tué son mari. Et le gouverneur lui a proposé la liberté à condition qu'elle figure dans une scène, pendant 2 minutes, qu'on la voit dans une scène de mariage, son visage, regardant, parce que c'était la coutume, dans le miroir, le jour du mariage, le visage de son mari, reflété par un autre miroir, parce qu'il n'avait pas le droit de se regarder en face avant d'être marié. C'était vraiment une très jolie scène. La femme a refusé.
Elle a refusé, elle a préféré rester en prison. Intériorisation du code par les femmes. Et puis, peu de pouvoir, en fait, cette anecdote le révèle, et pour le gouverneur et pour le roi, en la matière.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'un Afghanistan moderne, très centralisé, moderne pourquoi pas, mais très centralisé, ne peut pas fonctionner dans l'état actuel des choses parce que justement le Pashtun Rally fait fonctionner, je dirais quand même, quelques 12 millions de Pashtuns côté afghan et puis quelques 35 ou 40 millions de Pashtuns côté pakistanais.
Enfin, la poésie et la musique étaient ouverts aux deux sexes comme tout un espace fait de subversion des valeurs, votre ami Majrou encore.
Tant qu'il y aura un seul Afghan, il y aura un Afghanistan. Occuper ce pays ô ennemi est impossible. Ce rêve malsain est une chimère. Afghanistan, maquis des lions, terre des valeureux. Je te sacrifierai honneur, richesse et vie. Ô ennemi, ne frappe pas en vain cette porte. Va-t'en. Ça fait une éternité que les envahisseurs sont humiliés ici. C'est la maison des Afghans, le pays des hommes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Georges Lefebvre, nous parlons de l'Afghanistan. Nous entendions la voix de Majrou qui témoignait à la fois de la qualité de cette période de répit, d'indépendance relative un peu fausse des années 60, et puis qui craignait déjà ce qui allait se passer dans les années 70. Majrou, que vous avez bien connu.
Je suis très bien connu, Bahouddine Majrou. Je suis toujours en contact avec sa famille par son fils Khaled, qui est un ami très proche depuis une trentaine d'années. Oui.
Au début des années 70, catastrophe alimentaire, 71-72, qui laisse le roi, semble-t-il, assez impassible. Il est renversé en 73 dans le gouvernement de son cousin qui le remplace. Il y a déjà pas mal d'éléments communistes, mais on ne pense pas encore à une véritable intervention soviétique qui aura lieu en 1979.
Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan. Des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Les soldats russes ne cherchaient même pas à se cacher.
Il semble qu'il y a eu à peu près entre 8 et 10 000 Russes qui sont arrivés par les Antonov dans la nuit du mardi à mercredi et du mercredi au jeudi. Et il y en a qui ont franchi l'Amoudaria, qui est la frontière nord entre l'URSS et l'Afghanistan, contrôlant en particulier le col du Salang. Pour l'instant, on parle de 50 000 hommes le total.
L'hymne du nouveau régime afghan. Lève, lève le soleil de la liberté, le soleil du bonheur. C'est le moment de la fraternité et du sacrifice. Notre patrie, maintenant, c'est la patrie des travailleurs et des paysans.
Le président communiste Araki, qui est Pashtun, bien qu'il appartienne à une autre famille que les Durrani, la famille royale renversée, n'arrivera pas à s'imposer, malgré la présence, non pas seulement de 50 000 soldats soviétiques, comme il était dit ici, j'ai bien dit soviétique, pas russe, hein, Georges Lefebvre.
Oui, soviétique maintenant.
50, 100 000, 150 000 hommes. Alors, on les voit passer la frontière nord. Mais ce qui nous intéresse depuis le début de l'émission, c'est l'axe AFPAC, c'est-à-dire l'ancienne ligne Mortimer-Durand. Eh bien, les soviétiques ne vont pas la franchir. Ils vont la réactiver, mais pas la franchir. Voilà.
C'est-à-dire que les soviétiques n'osent pas, en fait, passer cette frontière. Ils ont fait des tentatives. Moi, j'étais sur place à l'époque. Il y a eu des bombardements sur le territoire pakistanais pour voir la capacité de réaction du général Ziaoulak, qui est au pouvoir à l'époque. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils n'osent pas franchir cette frontière, qui était très intéressante pour eux, puisqu'ils auraient fait la jonction avec l'Inde, qui était leur ami diplomatique depuis longtemps.
C'est-à-dire qu'au moment où les Soviétiques posent le dernier geste, on l'a dit d'une certaine manière que c'était le zénith de la guerre froide, le dernier geste de la guerre froide, ils ne surenchérissent pas dans ce domaine.
Voilà, donc en fait, ils échouent quelque part, parce que pour avoir été sur place à cette époque-là, je sais que le but, c'était de faire un axe qui faisait Moscou, Tachkent, Kaboul, Islamabad, New Delhi. Bon, ils échouent parce que, bon, là, à l'époque, le président Carter a dû agiter un petit peu le téléphone rouge en disant, attendez, vous allez voir ce qu'on fait en Angola si vous rentrez à Peshawar. Donc, revenons à nos moutons, à AFPAC. Cette frontière, vous avez dit tout à l'heure, Jean, qu'elle était virtuelle pour les populations. Et bien sûr qu'elle était virtuelle, parce que les populations pachtounes passent d'un côté à l'autre, de leur maison à la bergerie. Mais à partir du moment où les soviétiques ne passent pas la frontière, mais font stationner la 40e armée soviétique le long de cette ligne Durand pour empêcher les infiltrations insurrectionnelles venues déjà du Pakistan, eh bien, cette ligne Durand devient une vraie cicatrice douloureuse qui est le début des grandes insurrections qui continuent aujourd'hui.
Les soviétiques échouent aussi à cause de la résistance des insurrections. Alors, vous allez dire que ce sont les Occidentaux ou les pays arabes qui ainsi font la guerre par procuration, mais il y a tout de même, nos mémoires s'en souviennent.
C'est encore une guerre d'empire, en fait.
Je suis le commandant Massoud de la vallée du Panjshir. Les soviétiques ont envahi notre pays et ont lancé une nouvelle offensive contre notre vallée sans réussir à nous faire accepter la servitude. Les commandos de l'armée rouge se sont livrés à des atrocités sur nos femmes et nos enfants. Ils ont détruit nos villages et nos maisons. Ils ont brûlé nos récoltes. Ils ont dispersé notre population. Pendant que vous écoutez ce message, les Russes ont déclenché une deuxième offensive d'hiver pour en terminer avec nous. Nous nous battons pour le seul bien qui nous reste, la liberté. Et nous avons besoin de votre aide. Je fais appel à la conscience universelle, à vos consciences d'hommes et de femmes libres.
Les soviétiques sont chassés en février 89, 3 années supplémentaires pour faire tomber le régime communiste en 1992, 2 années de guerre civile qui suivent, le commandant Massoud y étant mêlé à Kaboul avant l'entrée en scène des talibans en 94, la chape de plomb qui tombe sur le pays, les attentats du 11 décembre 2001 et l'intervention armée sous mandat de l'ONU qui va être prise en charge par l'OTAN pour mettre en déroute le régime du Mollah Omar, garantie terroriste, contre-insurrection, et toujours la même fracture. Et les experts qui ne veulent pas la voir.
Et toujours la même fracture parce que, là encore, l'OTAN n'a pas mandat à intervenir au Pakistan, même s'il y a quelquefois des drones qui se promènent au-dessus, qui volent au-dessus des zones tribales, et que cette ligne Durand redevient une cicatrice. Bon, donc tout à fait propice aux insurrections nationales pachtounes qui va devenir le terrain fertile pour les avatars d'Al-Qaïda qui sont quand même installés là depuis 1984 en la personne de Ben Laden dans la zone frontalière de Djadji. Et donc nous avons une sorte de pâte feuilletée à 3 niveaux. On a le pachtounisme ordinaire qui est un sentiment national fort. On a par-dessus cela les insurrections pachtounes et vous avez bien sûr le terrorisme pur et dur d'un djihad international. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'au moment où on va retirer les troupes de l'OTAN, à un rythme variable selon qu'on est français ou américain, mais au bout du compte, on va les retirer en 2014. On sait donc qu'il n'y a pas de solution militaire et on ne voit pas non plus le bout d'une solution qui passerait par le développement. Il est donc urgent que les diplomaties se focalisent sur cette question, sur la question pachtoune, pour aider les 2 États voisins, Pakistan et Afghanistan, à régler une affaire qu'ils ont en commun, au lieu de continuer à s'arc-bouter l'un contre l'autre pour se rendre coupables l'un et l'autre des difficultés de frontières qui sont en fait une question pachtoune. Et nous n'aurons de paix possible en Afghanistan que lorsqu'on aura fait l'apaisement régional d'abord. Et ça passe par l'apaisement des 2 États voisins qui devront bien rentrer en contact avec les structures tribales pour régler cette question pachtoune et probablement reconnaître la ligne Durand à des conditions acceptables par les tribus.
Merci à vous, Georges Lefebvre. Sur notre site, on trouvera mention du vôtre qui traite régulièrement de la ligne AFPAC qui a été notre sujet aujourd'hui avec Sophie Moreno, Patrick Henry à la technique, Jacques Sigal de retour à la réalisation, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin, Laetitia Legrand, Franck Olivard dans notre équipe de recherchistes.